Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Qui n'a pas prévu son coin de terrasse pour demain? Bars et restaurants se préparent à la ruée, tandis que les cinémas peuvent compter sur l'envie de films et sur le mauvais temps. Les EHPAD en manque de résidents, une place sur 10 est vacante, les établissements baissent leur prix. L'enquête sur l'agression de policiers à Viry-Châtillon en 2016 a-t-elle été falsifiée? 5 avocats de la Défense portent plainte pour faux en écriture contre les policiers qui ont mené les gardes à vue. L'Espagne renvoie au Maroc 1500 des 6000 migrants qui ont été déferlé hier dans l'enclave de Ceuta sous les yeux de la police marocaine qui les a laissés faire. TF1 et M6 veulent former un nouveau champion français de la télévision, un leader européen capable de répondre aux plateformes mondiales et aux contenus en ligne. Mais l'opération n'aboutira pas avant un an et demi à cause des règles contre la concentration des médias. La surprise Benzema pourrait-elle débouler pour l'Euro dans la liste de Didier Deschamps? Plusieurs sources annoncent le retour chez les Bleus de l'attaquant du Real. Julien Froment nous en dira plus. Invité d'Europe Midi, Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. Qui peut encore arrêter la guerre toujours en cours entre Israël et le Hamas?
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Restez fermés pendant près de 6 mois, bars et restaurants refuseront du monde. Demain, ils croulent sous les réservations, y compris pour des déjeuners ou des dîners au milieu de l'après-midi. Chacun cherchera demain son petit coin de convivialité retrouvé en composant avec la météo, toujours fraîche et pluvieuse, et avec le périmètre des terrasses qui augmente à vue d'œil, comme dans le centre de Bordeaux, Stéphane Place.
Oui, à chaque coin de rue ici, dans le centre de Bordeaux, des artisans qui s'activent dans ces cafés et restaurants. Une installation électrique que l'on teste, un coup de peinture sur la façade, des tables ou un store que l'on nettoie. Bref, le grand ménage à J-1 de cette reprise tant attendue. Laurent Tournier, président girondin de l'UMI, l'Union professionnelle des restaurateurs et des hôteliers.
Il y a 40% des restaurateurs qui ont une terrasse. Sur ces 40%, il y en a un certain nombre, alors difficilement quantifiable, qui ne vont pas ouvrir. Soit les terrasses sont beaucoup trop petites, remettre un modèle économique avec le personnel, la marchandise à commander, avec une météo qui peut être un peu capricieuse. On peut entendre que ce ne soit pas les manières dont on a envie de reprendre l'activité. Pour certains, même sachant ça, ils vont quand même prendre le parti de réouvrir pour remettre un petit peu la machine en marche.
Place Gambetta, une grande terrasse emblématique de la ville, celle du Café Clément qui appartient au groupe que gère David de Freitas.
Capacité de terrasse à 50%, 120 personnes en terrasse. Minimum 1 mètre, 1,50 mètre d'espace entre les tables. Si on calcule brièvement le mois de mai, il ne va pas être non plus ultra rentable. Mais je ne vous cache pas que le fonds de solidarité est maintenu au mois de mai comme si on n'avait pas ouvert. Il faut ouvrir pour les équipes, je le fais pour les équipes, pour les clients. Nous, on a ouvert de 11h30 à 21h en non-stop, service continu. Les gens sont prêts à réserver à 11h30, venir à manger à 15h.
Et pour assurer ce service continu, par exemple, dans cette brasserie bordelaise, ce sont 28 professionnels qui vont reprendre le travail demain.
Autre réouverture très attendue demain, celle des cinémas. Jean-Luc Boujon, vous venez d'inspecter un multisalle de Brignais en périphérie de Lyon.
Oui, ce sont les derniers préparatifs au CGR de Brignais, le deuxième plus gros cinéma de l'agglomération. On installe boissons et confiseries dans les rayons, on remplit le bac à pop-corn et surtout, on finit de nettoyer les 15 salles du multiplex, explique Florian Renault, le directeur adjoint.
On a bien nettoyé, là, on a nos équipes de ménage qui peaufinent et qui finissent.
Et quoi, il y avait plein de poussière?
Bah, ça prend un petit peu la poussière, même si on l'entretient. C'est vrai qu'un cinéma qui vit pas, malheureusement, quelques petites toiles d'araignée à retirer pour que tout soit nickel. Mais sinon, la salle est prête, les films sont dans les serveurs et on n'a plus qu'à avoir des spectateurs et appuyer sur play.
Voilà, donc le play, ce sera demain avec la première séance programmée à 10h30, une quinzaine de films à l'affiche ici et pas mal de monde attendu, croit savoir le responsable, même si la jauge sera de 35% dans chaque salle, ce qui équivaut à 1 siège sur 3. Mais peu importe pour Florian Renault, ce qui compte, c'est de pouvoir à nouveau accueillir le public.
Il y a quand même une attente des gens, ils ont besoin de sortir. On a tous été fermés, moi je crois que j'ai plus aucune série Netflix à regarder. Donc c'est vrai que les gens ont besoin de sortir, donc il y a un réel besoin de ressortir au cinéma, surtout qu'en plus on revient quand même avec une programmation qui est assez diverse, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc nous, on est super ravis de réaccueillir les spectateurs.
Voilà, alors parmi les films les plus attendus, on pourra voir ici Adieu les cons, le dernier Dupontel aux 7 Césars, ou Demon Slayer, un film d'animation japonais annoncé comme le phénomène de l'été.
L'épidémie toujours en reflux, 22 700 malades du Covid hospitalisés, chiffre au plus bas depuis la fin octobre, dont 4 100 patients dans les services de soins critiques. Depuis le début de la crise, les EHPAD ont perdu près de 30 000 résidents morts du Covid. Résultat aujourd'hui, une place sur 10 est vacante. Et les établissements baissent les prix, Carole Ferry?
Vous savez quoi? C'est un directeur d'EHPAD qui m'a confié. En ce moment, il ne faut pas hésiter à négocier. Parfois, les établissements proposent eux-mêmes de baisser en effet les prix. C'est ce qu'a vécu Sylvain, qui cherche une maison de retraite pour sa mère en région parisienne.
J'ai appelé pour prendre des renseignements et assez rapidement, au bout de 10 secondes, on me dit que la chambre en fait, qui était à 100 euros à la base, on pouvait me la faire à 80 euros. On passe de 3000 euros à 2500 euros le mois. J'ai été surpris par le prix que tout de suite on m'a donné parce que je pensais que le prix des chambres en fait, était fixé. On ne pouvait pas transiger sur les prix. Et en fait, sans même négocier, c'est eux qui le proposent.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements privés deviennent rentables sur les toutes dernières places, un peu comme pour l'avion, donc il faut remplir. Pour le moment, de toute façon, le gouvernement compense le manque à gagner par des aides exceptionnelles. Mais ça ne va pas durer éternellement. Il faut donc convaincre de nouveaux résidents. L'allègement du protocole des visites à partir de demain pourrait jouer, parce que ce que craignent notamment les familles, c'est de placer leurs proches et de ne plus pouvoir leur rendre visite ensuite. Le texte prévoit tout de même d'interdire les visites quand il y a 3 cas de Covid. Le CINERPA, le principal syndicat des maisons de retraite, assure qu'aujourd'hui, les EHPAD peuvent gérer l'isolement de ces malades en maintenant une vie normale pour les autres et demandent donc la suppression de cette dernière contrainte.
Carole Ferry, le parvis de Notre-Dame à Paris, à nouveau fermé au public à cause d'une pollution au plomb, la poussière de plomb, continue de se répandre après la fonte de plusieurs centaines de tonnes de métal dans la charpente de la cathédrale. Encore des violences urbaines, cette fois à Argenteuil, dans le Val d'Oise, dans la cité du Val d'Argent, voitures incendiées et tirs de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre déployées sur place sans faire de blessés. Pour l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon il y a 4 ans et demi, le récent verdict qui avait acquitté 8 des 13 accusés a scandalisé les syndicats, on s'en souvient, mais aujourd'hui, 5 avocats des jeunes mis en cause dénoncent une construction de preuves et portent plainte pour faux en écriture publique contre les policiers qui ont mené des gardes à vue, Guillaume Bier.
Et oui, c'est grâce aux enregistrements des interrogatoires que tout cela est apparu, puisque depuis 2007, les gardes à vue dans les affaires criminelles sont filmées, mais ces vidéos sont très rarement visionné, c'est le procès-verbal écrit et signé qui fait foi. Or, dans cette affaire, les avocats de plusieurs accusés ont découvert que les policiers auraient rédigé des PV qui ne correspondent pas aux déclarations des témoins ni de certains suspects. Des extraits vidéo de ces interrogatoires ont été mis en ligne sur le site de Mediapart. On y voit notamment un homme soutenir qu'il n'a pas participé à l'attaque et les policiers et son avocat commis d'office qui font pression sur lui pour qu'il passe aux aveux. Au final, ce jeune homme a été acquitté après avoir passé plus de 4 ans en prison. Au moins 4 plaintes ont donc été déposées contre les enquêteurs. La procureure d'Evry a demandé le dépaysement pour que ces plaintes contre les policiers de la Sûreté de l'Essonne soient traitées dans un autre département. Et sans même attendre le début des investigations, le directeur général de la police, lui Frédéric Vaux, a réitéré son soutien indéfectible aux policiers mis en cause.
Guillaume Bier, les régionales, fin du psychodrame LR en PACA, le Conseil stratégique des Républicains confirme son soutien à la liste Muselier malgré son alliance avec la majorité. 2 votes contre, le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau et le député européen François-Xavier Bellamy. Pas de répit à Gaza, nouveau raid israélien cette nuit et encore des tirs de roquettes depuis l'enclave contrôlée par le Hamas. L'offensive diplomatique en cours reste sans effet. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir une 4e fois en urgence aujourd'hui, mais les États-Unis refusent toujours une déclaration appelant à une cessation des violences. Le professeur de sciences politiques en Israël, Denis Charby, sera en ligne avec nous tout à l'heure dans Europe Midi. À la frontière entre le Maroc et l'Espagne, sur l'enclave de Ceuta, la police marocaine a baissé les bras hier, laissant déferler une marée humaine de migrants en territoire espagnol. Environ 6000 personnes, dont beaucoup de mineurs, ont réussi à passer Henri de la Guérie.
Oui, ces migrants originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne n'ont eu aucune difficulté pour franchir la frontière. Ils ont contourné à pied ou à la nage la digue qui sépare le Maroc de l'enclave. La police marocaine ne leur a opposé aucune résistance. Il s'agit pour Rabat de faire pression sur son voisin espagnol. Les deux pays sont en crise ouverte depuis que le leader du Front Polisario, ce mouvement qui réclame l'indépendance du Sahara occidental, est hospitalisé en Espagne pour infection au Covid. Rabat y voit une forme de soutien implicite de Madrid aux revendications des séparatistes et joue donc une nouvelle fois avec le robinet de l'immigration. Mais à Ceuta, les autorités sont débordées. Écoutez Isabelle Brasero de la Croix-Rouge.
C'est une situation sans précédent. Nous avons l'habitude de ce genre de travail et nous sommes très entraînés car on prend en charge des migrants tous les jours. Mais là, on n'avait jamais vécu une telle situation.
Des tanks de l'armée espagnole ont été déployés ce matin à la frontière sur la plage de Ceuta. Le chef du gouvernement, Pedro Sanchez, a annulé son déplacement ce matin à Paris. Le renvoi des migrants va se poursuivre, mais précisons que les mineurs, eux, ne peuvent pas être expulsés.
Henri de la Guérie en Espagne pour Europe 1.
Europe Midi, Patrick.
Patrick Cohen.
Après une pause, la fusion TF1-M6, ses surprises et ses embûches, et puis le football avec peut-être aussi là une grosse surprise.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Ils sont depuis 30 ans les frères ennemis de la télévision privée, rivaux acharnés pour les séries et le divertissement. Ils ne devraient faire plus qu'un. Demain, TF1 et M6 viennent donc d'annoncer un projet de fusion, ce qui serait la réponse française aux plateformes et aux contenus à la demande. Emmanuel Dutheil.
Oui, hein, les candidats de Danse avec les stars vont-ils se déhancher demain dans les fermes des agriculteurs de l'amour
bien, hein.
Et dans le pré? Bah pourquoi pas, c'est un joli programme qui se prépare. C'est en tout cas...
C'est vos goûts.
C'est nos goûts, c'est vos goûts, c'est les goûts de tout le monde. C'est en tout cas la question du jour. Et une question à plusieurs milliards d'euros. Hein. Ça fait des mois que TF1 et M6 discutent. Tout s'est finalisé hier après un week-end de discussions très intense. À l'heure de la concurrence de Netflix et d'Amazon, c'est la naissance d'un groupe gigantesque. Et c'est ça le plus important. Présent sur tous les marchés. De la radio avec RTL à la production de séries en passant par la télévision avec 10 chaînes gratuites dont TF1, M6, TMC ou encore Gulli. Des sites internet comme Doctissimo, des sites de replay de VOD.
Mariage déjà salué par la Bourse de Paris, plus 8% pour l'action TF1, plus 5% pour celle de M6, parce qu'on peut imaginer que tout cela génère des marges considérables et des économies de coûts, mais on n'y est pas encore, Emmanuel, les embûches sont nombreuses.
Oui, la première d'entre elles, c'est le fait qu'il n'est pas possible d'avoir pour un groupe de télévision plus de 7 chaînes gratuites. Je vous ai dit qu'il y en avait 10, il faut donc en vendre 3, on ne sait pas encore lesquelles. Autre point très problématique, le nouvel ensemble va représenter environ un tiers de la part d'audience de la télé et les 3/4 du marché publicitaire. Là, ça devrait faire tiquer. L'autorité de la concurrence doit se décider à l'été 2022. Les deux groupes ont un argument pour tenter de faire passer leur dossier. Ils veulent que l'on regarde le marché publicitaire dans son ensemble, c'est-à-dire le marché de la télé traditionnelle plus celui du numérique, ce qui n'est pas prévu pour le moment. Alors là, il faut s'attendre à un immense lobbying à venir de la part des deux groupes. Si cette opération historique devait malgré tout être finalisée, le rapprochement aurait lieu à la fin 2022 et c'est Nicolas Taverneau, l'actuel patron de M6, qui serait alors à la tête du générique, autrement dit à la tête de l'ensemble.
Ce qui est la surprise dans la surprise. Nicolas Taverneau, M6, pour coiffer l'ensemble. Et à 20h20, ce soir, c'est à la fois sur TF1 et M6, les deux diffuseurs de l'Euro, que Didier Deschamps va dévoiler sa liste de joueurs qui pourraient comprendre Karim Benzema. J'emploie le conditionnel, mais la rumeur d'un retour de l'attaquant du Real se fait de plus en plus insistante, Julien Froment.
Effectivement, 6 ans après sa dernière sélection, le 8 octobre 2015, une victoire 4-0 des Bleus contre l'Arménie et un doublé de Karim Benzema, ce dernier va faire son grand retour chez les Bleus, sauf retournement de dernière minute. C'est ce qu'une source confirme à Europe 1. Pour rappel, le Français de 33 ans a été écarté de la sélection par Didier Deschamps après l'affaire dite de la sextape et surtout après cette déclaration en mai 2016 à Marca. Deschamps a cédé, je cite, sous la pression d'une partie raciste de la France. Deschamps, l'inflexible, s'est mué en Deschamps, le pragmatique. La donne a changé. Selon nos informations, le cas Benzema a fait l'objet d'une réflexion poussée du staff depuis plus d'un mois. Staff qui s'est montré unanime à son sujet. Le joueur originaire de Lyon réalise une saison très aboutie au Real Madrid, peut-être la meilleure de sa carrière, avec 29 buts et 8 passes décisives. Enfin, peut-être un signe sur Twitter, sur son compte Twitter, sur sa bio. Eh bien, Karim Benzema a ajouté aujourd'hui joueur de l'équipe de France.
Ah.
Donc maintenant, reste désormais à attendre la confirmation ce soir, vous l'avez dit, vers 20h20.
Oui, parce que Benzema, lui, le souhaite depuis longtemps.
Il n'a jamais fermé la porte.
Son retour chez les Bleus. Hein.
Tout à fait.
Merci Julien Froment. Bah, écoutez, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Le temps, à présent, Anissa Haddadi, toujours pas mal d'averses cet après-midi.
Ah, il y a moins de suspense de mon côté, ça je vous l'accorde, Patrick. C'est vrai que les journées se suivent et se ressemblent. Alors sur la moitié nord cet après-midi, en particulier de la Bretagne au Grand Est, nous avons un régime d'averses qui s'installe encore tout l'après-midi. Alors vous aurez droit à quelques éclaircies qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et puis derrière, hop, une averse accompagnée de coups de tonnerre sur la moitié nord, en Bretagne, en Île-de-France et dans le Grand Est. Sur la moitié sud, là vous avez un peu plus de chance, le ciel reste tout de même très couvert, très gris, mais le temps est un petit peu plus calme avec des averses, moins nombreuses certes, et puis sur la Côte d'Azur et la Corse, là vous êtes les chanceux du jour puisque le soleil brille dans dans un ciel allez, légèrement nuageux. Mais attention, nous avons toujours ce vent d'ouest qui souffle hein, sur les côtes varoises, sur la côte d'Azur et sur la Corse jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont fraîches pour la saison, toujours Patrick, avec 12 degrés à Rodez et Aurillac, 14 à Saint-Étienne et Belfort, 15 degrés à La Rochelle et Nancy, 17 à Paris et Nantes, 18 degrés à Biarritz, 20 degrés à Perpignan, 21 degrés pour Marseille et un léger coup de chaud du côté de Nice où nous attendons 25 degrés cet après-midi.
Merci Anissa.